Bonjour Yasmina Reza.
Bonjour.
Vous publiez un roman intitulé Babylone et je vais faire un exercice difficile. Je vais tenter sous vos yeux, sous votre regard, de résumer ce roman ou en tout cas d'en donner l'argument. Il s'agit d'Elisabeth. Elle a un boulot, un mari, un fils qui travaille dans le numérique. Les années qui passent l'inquiètent normalement. Vous écrivez à partir d'un certain âge, une femme est condamnée à la bonne humeur. Quand tu fais la gueule à 20 ans, c'est sexy. Quand tu la fais à 60, c'est chiant. Elisabeth est une femme normale à qui il arrive des choses normales, la mort de sa mère, une fête de printemps qui se passe à peu près bien, et puis ça dérape dans votre roman, et l'on pense à cette phrase qui est en exergue de votre ouvrage, « Le monde n'est pas bien rangé, c'est un foutoir, je n'essaye pas de le mettre en ordre ». C'est une phrase qui nous vient du photographe Vinogrande, mais c'est aussi le travail de la romancière, selon vous, Yasmina Reza.
Ce qui m'intéresse beaucoup dans la phrase de Vinogrande, c'est que elle émane d'un photographe qui, par essence, cadre, donne un espace très limité à la chose qu'il veut montrer. Et Vinogrande a été un des rares, à ma connaissance, à cadrer, bien sûr, mais pas tant que ça. C'est-à-dire, il a shooté ce qu'il voyait, peu importait que ce soit de traviole ou que ce soit propre ou qu'il y ait des éléments inopportuns dans le cadre de l'image. Et il n'a jamais cherché à les recadrer ou à enlever des éléments, ce qui est quand même assez rare. Et de ce fait, les photos de Vinogrande rendent un monde un peu déséquilibré, un peu fragile, un peu précaire. Et moi, ça m'intéresse énormément. Ça, je n'ai pas la prétention d'avoir le même rendu que Vinogrande, mais c'est exactement ce monde-là que j'aime à rendre.
Ça veut dire aussi que vous citez beaucoup la photographie, vous citez beaucoup de photographies dans ce roman Babylone, Yasmina Reza, peut-être aussi parce que dans la photographie, finalement, il y a l'idée qu'on se laisse happer par le monde extérieur, qu'on n'a pas de choix à faire. C'est évidemment un mensonge, mais en tout cas, on peut le prendre ainsi en apparence.
Oui, mais surtout, ce que j'aime, moi, dans la photographie, c'est que ça raconte des mondes disparus. La mort est toujours comprise dans une photo, puisque c'est un instant qui ne reviendra jamais. La personne qui est dans la photo, sur la photo, dans une émotion forte, est déjà morte, qu'elle soit vivante ou que ce soit une photo du passé. C'est une intensité de vie maximale, même si c'est une personne qui dort ou qui rit, et qui a disparu à jamais. Et ça, c'est pour moi un départ de fiction qui est considérable. Et j'ai toujours considéré les photos comme des potentialités de fiction, puisqu'il y a un hors-champ qui est vraiment très porteur. Et c'est la première fois que je le fais pour de vrai, mais j'ai toujours quand même décrit sur papier, j'ai des tas de brouillons, j'ai toujours décrit des photos.
Il y a beaucoup de premières fois dans ce livre pour vous, Yasmina Reza, puisque c'est la première fois que vous écrivez un roman, dites-vous, avec un début, une fin, avec non pas un roman policier, mais disons... une intrigue policière, on peut dire cela ainsi?
Je dirais que c'est la première fois que j'écris un événement, surtout. En général...
On peut dire de quel événement il s'agit?
Oui, il y a un meurtre. Mais d'habitude, dans les romans précédents, c'était plutôt du genre une critique de l'existence, plutôt qu'un récit avec des rebondissements. Je ne savais pas très bien faire ça. Donc j'ai tenté.
Vous avez tenté également de peindre la vie des gens ordinaires, et d'ailleurs toujours pour continuer à évoquer la photographie, votre roman s'ouvre sur la description d'une photo de Robert Frank dans The Americans, qui est une photo extrêmement mélancolique d'un homme qui est témoin de Jéhovah et qui essaye de distribuer des prospectus alors que tout le monde s'en fiche, et on voit que cet homme a été considérablement usé par la vie.
Moi, je suis toujours en train de regarder des gens ordinaires. Il y a un énorme malentendu en ce qui me concerne souvent, c'est que j'ai pu lire ou j'entends que je m'occupe des bobos, de mon arrondissement. Je trouve pas que c'est juste. Je pense que je me suis toujours intéressée au banal, à l'ordinaire, à l'homme dans lequel tout un chacun peut se reconnaître et qui a des défauts et des qualités j'allais dire éternelles, c'est évidemment un mot exagéré, mais qui ne sont pas ceux d'une société particulière.
On écoute le photographe Robert Frank parler des Américains.
In America, I wanted to do it differently. There was no more romanticism, really. It was a look at a country that I didn't really know, that I only lived in for a couple of years. So, the Americans was the first.
En Amérique, dit Robert Frank, j'avais envie de faire différemment. Il n'y avait plus de romantisme. Je voyais un pays que je ne connaissais pas vraiment, où je vivais depuis quelques années avec The Americans. C'était la première fois que je faisais un voyage à travers le pays. Des fois, je voyageais avec ma femme et mes enfants, mais la plupart du temps, j'étais seul. Vous décrivez une ville peuplée, comme vous venez de le dire, de gens ordinaires, menant une existence ordinaire. Et c'est cela, semble-t-il, qui vous a arrêté, Yasmina Reza.
Oui, ce que j'aime beaucoup dans le petit extrait là de Robert Frank, c'est qu'il dit « j'étais seule » et il a photographié des gens seuls. Et je dirais « je fais pareil », c'est-à-dire « j'étais seule » et j'ai parlé de gens seuls, parce que les personnages de Babylone sont seuls, même s'ils se parlent entre eux. Mais c'est toujours ce thème de la solitude, d'être comme ça, en presque sur le pas de la porte, ou un peu à l'écart, un peu à l'écart du monde, de la vie, et néanmoins de comme tout le monde, vivre tous les jours avec les mêmes contraintes de la vie, mais sans bruit. C'est ce sans bruit que j'adore dans les photos de Robert Frank. Et c'est ce sans bruit que j'ai essayé, moi, sans vouloir imiter quoi que ce soit, puisque c'est ma manière aussi de faire. Mais je crois que dans le sans-bruit, il y a mille choses à dire.
C'est un roman qui est drôle, qui est assez ironique. Vous vous moquez beaucoup des sociologues. C'est pas bien de se moquer des sociologues. Vous vous moquez d'un certain nombre d'expressions toutes faites qui sont mi-sociologiques, mi-journalistiques, comme par exemple « faire du lien ». Et cependant, mais c'est peut-être parce que je suis journaliste, on a l'impression que précisément, vos personnages n'arrivent pas du tout à faire du lien. C'est-à-dire, vous dites d'un homme qui est en couple qu'il est seul, et vous montrez finalement des gens qui sont toujours en déréliction, incapables d'aller vraiment vers l'autre.
D'abord, je me moque pas. Hein. Je trouve pas que je me moque. Je mets en avant certaines expressions.
Mais vous ne moquez pas des personnages, vous moquez de l'époque.
Oui, forcément, un peu en filigrane. Mais je me moque pas du tout des personnages. Alors, sur les expressions, par exemple, faire du lien, il faudra un jour qu'on m'explique ce que veut dire faire du lien. Parce que faire du lien, le lien en soi n'a aucune valeur. Le lien, ça peut être des liens de ronces, des liens de haine, des liens... Le lien en soi est quasiment neutre en tant que mot, et il peut suggérer des choses épouvantables. Donc faire du lien ne veut rien dire, vraiment. Alors, dire que les personnages, en revanche, n'ont pas de lien, je ne suis pas de votre avis. Je pense qu'ils sont très liés, notamment quand même, ce livre raconte une histoire d'amitié extrêmement forte.
Il raconte une histoire d'amitié, et effectivement, ça n'est pas l'amitié qui va mal dans votre livre. C'est plutôt le couple, c'est plutôt l'amour, où là, ça ne va pas très bien. Et d'ailleurs, on va écouter quelqu'un qui s'y connaissait en matière de couple qui allait mal. On va écouter un extrait d'un film de Truffaut, La nuit américaine.
Personne ne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel.
Écoute, Alphonse, viens. Tu vas rentrer dans ta chambre, hein. Tu vas relire le scénario, tu vas travailler un petit peu et tu vas essayer de dormir, hein. Demain, c'est le travail, et le travail est plus important.
Ne fais pas l'idiot, Alphonse. Tu es un très bon acteur, le travail marche bien. Je sais, il y a la vie privée, mais la vie privée, elle est boiteuse pour tout le monde. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Les gens comme toi, comme moi, tu le sais bien, on est fait pour être heureux dans le travail, dans notre travail de cinéma. Salut Alphonse, je compte sur toi.
Chez Yasmina Reza aussi, la vie privée, elle est boiteuse pour tout le monde.
Malheureusement, je pense, oui. Elle est forcément boiteuse. Et quand Truffaut dit qu'il n'y a pas de temps mort dans le cinéma, c'est-à-dire que c'est une autre temporalité, le cinéma, l'écriture, on crée un temps évidemment qui est beaucoup plus compacté, mais aussi ce qui est très amusant, c'est de créer du temps mort. Moi, je le fais ça. mais un temps mort à ma façon.
Mais attendez, ne vous défaussez pas, parce que vous dites que la vie privée est boiteuse, comme si c'était une fatalité, mais en tout cas, c'est celle que vous décrivez dans votre livre. Elisabeth aime Pierre, Pierre c'est son mari, mais elle lui reproche de l'aimer inconditionnellement. Il l'aime, écrivez-vous, même l'aide, ce qui n'est pas du tout rassurant. A-t-elle eu une vie heureuse? Elle ne se mettrait pas 14 sur 20, plutôt 12, écrivez-vous, parce que moi, j'aurais l'impression d'être ingrate ou de blessée. Un jour, elle a demandé à Pierre pourquoi on avait jamais utilisé fouet, menottes et compagnie. Il a eu une réaction épouvantable. Il a ri. C'est quand même une vision assez désespérante du couple et de l'amour.
Oh, moi, je trouve pas. Je trouve que dans ce que vous venez de lire, il y a de l'humour, il y a de la tendresse. Il y a. Enfin, c'est plutôt drôle la dernière phrase. Je pense justement fouet, menottes et compagnie ne sont pas tellement bienvenus dans un couple qui dort ensemble tous les soirs. Ça n'aurait vraiment pas de sens. C'est fouet, menottes et compagnie sont mieux avec un amant plus épisodique. Mais ça ne veut pas dire que le couple marche mal. Je trouve pas, moi, que le couple d'Elisabeth et Pierre soit mauvais.
Et dans la propension à faire du lien, puisque c'est ce terme qui semblait vous faire rire, il y a aussi l'idée que finalement, eh bien, tous vos personnages, finalement, ils réussissent surtout à avoir des problèmes avec les autres. Et c'est la raison de ce meurtre un peu inexplicable, qui finalement renvoie à un autre meurtre littéraire inexplicable, celui décrit évidemment par Albert Camus dans L'Étranger.
Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle.
Un extrait de L'Étranger par Albert Camus. Il y a évidemment cette référence-là, comme ça en filigrane, dans votre roman. Il y a un homme qui tue sa femme et on ne comprend pas très bien pourquoi il la tue, mais vous devez le comprendre, Yasmina Reza.
Je ne le comprends pas plus que je ne le comprendrais dans la vie réelle. Je crois qu'on ne peut jamais véritablement comprendre les ressorts d'une chose qui est à la fois volontaire et involontaire. Ça ne m'intéresse d'ailleurs pas de comprendre les ressorts. Mais vous savez, par rapport à ce que vous avez dit sur la vision pessimiste des choses, des couples et de la vie, je pense qu'il n'y a absolument pas lieu d'écrire si tout va bien. Je pense que l'écriture, ou même, je dirais même plus loin, il n'y a pas lieu d'avoir de l'art si on était dans un monde parfait. L'art est une correction. Je mets la littérature dans l'art, moi. C'est un moyen de créer de l'être, ou de créer de l'espace, ou créer du paysage qui vient corriger, non pas embellir, évidemment, mais corriger, c'est-à-dire donner l'opportunité d'un regard différent. Si tout était merveilleux, on n'aurait jamais besoin de cette correction.
Et ce qui est étonnant, justement, puisque vous dites qu'on n'aurait pas besoin de cette correction, c'est que finalement, dans votre univers, cet univers que vous décrivez dans cette ville de banlieue, Yasmina Reza, eh bien, on a l'impression finalement que les personnages souffrent non pas d'une perfection, mais d'une forme d'ordinaire, d'un ordinaire qui les épuise, et finalement qu'il n'y a qu'un meurtre qui puisse venir en quelque sorte les sauver.
Mais j'ai toujours pensé que le mouvement était porteur de joie. Alors vous allez me dire, c'est un mouvement un peu excessif, mais quand même, pour moi, et ça c'est aussi une chose que j'ai beaucoup traitée, y compris dans le théâtre, le pire c'est quand rien ne se passe. Quand la vie, on a le sentiment, moi c'est une chose que j'ai eue très forte dans l'enfance, le sentiment que tout passe, que tout le monde s'amuse, que tout bouge, que derrière la vitre, c'est très excitant. Et vous êtes là et pour vous, rien ne se passe. C'est un sentiment d'une énorme puissance parce qu'il engendre des choses très fortes en soi. Et c'est un sentiment très pathétique et fort. Enfin, et là, j'ai voulu qu'il se passe quelque chose et qui redonne curieusement, c'est peut-être presque amoral ce que je vais dire, mais de la gaieté.
Mais est-ce que c'est pas aussi une maladie de romancière? Parce que vous dites, voilà, regardez derrière la vitre. En radio aussi, d'ailleurs, il y a une vitre, la vitre de la régie. Et finalement, la romancière, le romancier, c'est peut-être quelqu'un d'extrêmement mélancolique qui combat sa mélancolie en écrivant et finalement en faisant de ce qui aurait pu le conduire au désespoir son art.
Alors là, je vais avoir du mal parce que j'ai pas de théorie sur le romancier et j'aime pas du tout ce mot en plus romancier.
Quel est le mot que vous préférez?
J'aime un mot qui s'appelle écrivain. Mais romancier, je vois le petit bonhomme qui est en train de confectionner des histoires. Enfin, ça ne me va pas du tout.
Et cependant, comme on l'a dit, c'est une histoire avec un début, une fin, et ça c'est quelque chose de nouveau, et c'est un exercice qui vous permet en quelque sorte de revisiter des thèmes qui sont au cœur de votre œuvre, Yasmina Reza, mais sous une autre forme.
Oui, mais parce que j'essaie toujours d'évoluer, de changer de forme.
La contrainte.
Je dis toujours la même chose, donc il faut à un moment donné que je change un peu. Donc là, je change la forme.
Et justement, le fait d'écrire sous la contrainte, c'est-à-dire de choisir une autre forme pour dire, c'est vous qui l'avez signifié la même chose.
La contrainte est très bonne. Elle oblige à prendre des chemins qu'on n'aurait pas pris sinon.
Si on essayait de résumer en quelque sorte les thèmes que vous brassez, avec lesquels vous battez, il y a donc cette forme de vision désenchantée du couple, de l'amour. Et puis il y a aussi, c'est votre mot, le primat des nerfs sur l'intelligence. Vous pourriez nous expliquer ce que ça signifie?
Oui, c'est juste. Moi, je pense que la morale s'arrête où commencent les nerfs. C'est comme ça. Je pense qu'on a... ce sont des gens. J'ai toujours traité des gens normaux qui dérapent au moment où les nerfs ne peuvent plus soutenir la volonté morale qui a été prise auparavant. Et je pense que c'est assez juste finalement quand on regarde comment se déroule le monde.
Et puis, le dernier terme que l'on retrouve dans votre œuvre, Yasmina Reza, même si vous n'aimez pas le mot, c'est le mot de lien. Donc, on a vu les liens qui sont les liens entre les êtres. Il y a aussi les liens entre générations. Votre roman, il s'intitule Babylone. Il met en scène Jean Lino, un homme qui est un peu juif. Je dis un peu juif parce que Babylone, ça renvoie à un psaume, parce que cet homme sait confusément qu'il est juif. Mais en réalité, cette identité est une identité complètement creuse, qui n'a pas de contenu. Et ça aussi, c'est un problème de lien, désolé d'utiliser ce terme à nouveau.
Le problème de lien
Le problème des liens entre les générations, puisque lui a en quelque sorte une identité qui est en grande partie creuse de tout contenu précis.
Alors là, ça va être très difficile de répondre en deux secondes sur un thème aussi grand.
Nous avons du temps.
Mais je pense aussi que dans les thèmes que j'espère développer, il y a aussi l'inadéquation entre soi et ce qu'on voudrait qu'on soit. C'est-à-dire, il faudrait avoir des identités bien enveloppantes, bien définies. Et je ne sais pas pourquoi il faudrait avoir ça. Personnellement, je ne le ressens pas. Et si on est un quart juif, à moitié juif, qu'on n'a pas de véritable lien avec le passé, ça n'a aucune importance pour moi.
Sauf qu'on est à Babylone en exil.
Mais on est toujours à Babylone.
C'est peut-être le problème de vos personnages.
On est toujours plus à Babylone. Parce que c'est en fait, ils sont... C'est-à-dire, on n'est plus à Babylone parce que Babylone n'existe plus. Donc, c'est un double mouvement. C'est Babylone en tant que monde disparu, et Babylone, quand on y était, n'était déjà pas le monde où il fallait être. Pour résumer.
Babylone, c'est le titre de votre roman, Yasmina Reza, publié aux éditions Flammarion. On vous retrouve vers 8h20. On continuera à évoquer la fiction parce que dans ce livre, il y a aussi un manifeste pour la fiction à une époque où ce genre littéraire est quelque peu attaqué ou peut-être déconsidéré.